With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Mega Man 11. Oui, 11, ça fait beaucoup. Mais un de moins que le nombre de saisons dans Silence on Joue. Franchement, ils sont... Bref. on va parler de Assassin's Creed Odyssey, de Bad North. On aura la chronique jeux vidéo de Jérémy... jeu de plateau de Jérémy. Et puis, le reste du programme, vous connaissez avec le com des coms, etc. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris avec Patrick Elio. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Erwan.
Corentin Benoît Gonin, des croissants. Bonjour, Corentin.
Bonjour, Erwan.
Et pour la deuxième fois dans Silence on Joue... Marius Chapuis de Libération, bonjour Marius.
Bonjour Erwan.
C'est quoi cette voix? Tu t'entraînes, tu n'étais pas content avec la...
C'est à force d'entendre l'accent.
Ah oui, c'est vrai, mon personnage B.
Donc merci, donc on en était où? Oui, on va commencer avec toi Patrick, ouais. Avec des news de jeux d'aventure,
bah oui,
et d'une mauvaise nouvelle d'il y a quelques semaines qui devient peut-être...
Il faut sauver le soldat The Walking Dead, je sais pas si on peut dire comme ça. On avait parlé il y a quelques semaines déjà de la fermeture de Telltale Games, hein, le fameux éditeur spécialiste du jeu d'aventure depuis quelques années. On avait évidemment parlé de la casse au niveau social, avec tous ces gens qui se retrouvaient sans travail du jour au lendemain et la violence de ce qui s'est passé. Donc bon, voilà, tout ça, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Bon, il y a quand même un petit peu d'espoir, a priori, pour qu'on ait une suite du jeu. Donc voilà, ça c'est quand même une chose positive, même si c'est pas le cœur de l'affaire, mais quand même, le jeu risque d'avoir une suite. On a appris lors de la Comic-Con que l'éditeur Skybound Games allait travailler a priori avec Telltale, ou en tout cas ce qu'il en reste, avec certaines personnes de Telltale, pour sortir les deux épisodes, deux ou trois qui restaient, pour finir la saison 4, la fameuse season finale de Walking Dead. Alors... Pour info, Skybound Games, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même la maison d'édition de Robert Kirkman, qui est donc l'auteur original de la série The Walking Dead en comics. Donc c'est lui qui a priori, pendant la Comic-Con, a pris la parole pour dire que voilà, ils allaient trouver, en tout cas, ils cherchaient à trouver une solution pour publier la suite de The Walking Dead, le jeu d'aventure, donc ces deux épisodes qui manquaient. Ils travailleraient a priori avec certaines personnes du studio original. On ne sait pas trop encore pour l'instant, on n'a pas de date, on n'a pas encore de détails sur la façon dont tout ça va se mettre en place, qui va bosser dessus, comment, quelle équipe va exactement travailler sur ces épisodes. En tout cas, ça risque d'arriver. Puis il y a eu cette phrase où pendant la Comic-Con, a priori, il était dit on ne peut pas perdre la même année Andrew Lincoln et Clementine en même temps. Voilà, c'est pas possible. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, en tout cas, voilà, il y a un espoir pour qu'on puisse avoir le fin mot de cette saison 4 dont on avait parlé ici avec Erwan Guinen qui avait fait les deux premiers épisodes, je crois. Donc voilà, ça sera une faire à suivre.
Il y a une espèce d'accord de principe apparemment qui a été mis en place, mais c'est vrai que le flou derrière le plan de...
Pour l'instant, ça reste très nébuleux. Je pense qu'ils sont en pleine négociation. Moi, je me demande, est-ce que Kirkman va pas aussi en profiter peut-être pour donner un nouvel impact en tant qu'auteur quand même de la série originale du comics? Est-ce qu'il va pas aussi avoir un mot supplémentaire à dire?
J'ose espérer qu'ils avaient déjà un droit de regard sur ce qui se passait dans la série.
Bien sûr, mais est-ce que ça va pas être un moyen aussi de... Tout ça reste à vérifier. Tout ça sera, je pense, communiqué un peu plus tard.
Mais on verra, mais c'est vrai que même le Skeleton Crew, les dernières personnes restantes à Telltale ont également été virés entre temps. Il n'y a littéralement plus personne à Telltale Games.
Pour l'instant, ça reste.
Et ils ont dit qu'ils souhaitaient réembaucher pour l'occasion l'équipe originale, a priori.
Donc ça, c'est toute l'équipe originale.
Pas toute, t'imagines. Il y avait quand même deux plus.
Après, Starbound a peut-être plus.
Non, mais toute l'équipe originale du jeu The Walking Dead. Je ne parle pas de tout Telltale.
Non, toute l'équipe originale.
En tout cas, j'imagine la core team qui travaillait, qui était au scénario aussi. C'est important de finir ce scénario. Autre bonne nouvelle, c'est la date qui a été annoncée pour Return of the Obra Dinn de Lucas Pope. Vous vous rappelez ce jeu d'aventure? on en avait déjà parlé ici il y a très longtemps, il a été annoncé il y a 4 ans je crois, jeu d'aventure avec moi ce qui évidemment me parle immédiatement c'est ce look typique du Macintosh première génération, noir et blanc, avec un graphisme très fin, très ciselé, voilà, donc jeu en vue subjective qui sort sur PC Mac le 18 octobre, donc c'est une question de...
C'est la semaine prochaine.
Ça arrive vraiment bientôt, c'est et donc on va suivre ça de très très près. Pour l'instant pas de version console dans l'immédiat parce que voilà, a priori le monsieur bosse tout seul, mais c'est pas complètement écarté, donc peut-être qu'on aura des choses. Je finis avec deux petites on a toujours un petit instant vert.
On te laisse dans ton tunnel là.
On a une date pour Tetris Effect qui était quand même annoncé comme un des très très beaux jeux verts. Il arrive le 9 novembre avec une version physique, il y aura quelques bonus, des musiques en plus, etc. Et puis on a eu une annonce de Borderlands 2 en VR qui arrivera le 14 décembre. Moi je rigole pas, ça me fait envie. Le look de Borderlands avec ce graphisme très dessin animé, je pense qu'il se prête très très bien de la VR parce que justement on n'est pas sur du photoréalisme. Ouais. On a un cachet très très dessin animé qui pour moi correspond bien à la VR
mais
d'aujourd'hui.
J'ai tellement pas envie de vomir.
Patrick, il y a 2010 qui a appelé, il veut récupérer ce jeu là.
Je suis curieux.
Sur ce coup-là. Je suis plutôt du côté de Patrick maintenant.
On verra, on jugera.
En VR, j'y arrive pas, je peux pas.
Ça dépend desquels. Encore une fois, moi j'étais vraiment, ça dépend. Ça dépend de la réalisation, du graphisme. Et là, je pense que ce graphisme dessin animé est très friendly VR. VR friendly, je sais pas si on peut dire, mais je pense qu'il se prête bien de la VR.
Après, je sais pas qui sera à l'écriture du truc, mais Borderlands, ça tenait aussi sur.
Non, mais c'est Borderlands 2.
C'est le 2.
C'est le 2, et après, c'est un portage.
Ils reprennent Borderlands 2. Donc c'est pas Borderlands.
On suivra ça de près, évidemment.
Corentin.
Stardew Valley qui arrive sur mobile, alors c'est, je trouve ça super moi personnellement parce que c'est vrai que Stardew Valley est un excellent petit jeu, surtout quand on connaît son histoire. Il était sorti début 2016 sur PC puis sur console en fin de cette même année là. C'est pas la première fois qu'il est portable hein, puisqu'il a été, il a été édité sur Switch voilà, en fin de l'année dernière.
Et les autres non ?
Et sur Vita aussi. Bah oui, j'ai dit console fin 2016, donc c'était quoi ? C'était Xbox One et PS4 je crois. Il n'y avait pas Wii U à l'époque. Je crois pas qu'il y ait Wii. Par contre, il était sur Vita aussi, je crois que c'était cette année qu'il a été mis sur Vita, mais voilà, il sort sur iOS, donc iPad et iPhone, il sortirait je l'ai noté, le 24 octobre, donc c'est cool moi je trouve pour tout un public qui je pense n'est pas forcément prêt à acheter une console mais serait prêt à jouer à un jeu comme Stardew Valley qui est je trouve assez accueillant dans sa prémisse du tout plaquer pour aller reprendre la ferme de son grand-père et assez addictif.
On
aussi
a une idée du prix ou pas du tout?
Non, je sais pas trop, mais c'est vrai que je vois pas avoir de prix. Le prix standard des jeux iOS, il me semble c'est quoi, 3 dollars, quelque chose comme ça, mais ça m'étonnerait qu'il soit vendu 3 dollars.
Parce que c'est pas du tout le.
Je pense sera plutôt autour des 10 dollars.
En même temps, il est déjà rentabilisé.
Il est déjà 1000 fois rentabilisé. Il s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires en fin 2017, sachant que il y a un seul type qui a bossé dessus. Il y a Steam qui a pris sa part, Chucklefish qui a pris sa part concernant tout le RP et compagnie, enfin les relations presse, la distribution. Et là donc c'est un autre studio qui s'est occupé de l'adaptation sur mobile, donc ouais le mec il l'a 1000 fois rentabilisé, donc c'est super pour lui.
On voit notre lecture commune
Blood, Sweat and Pixels
Très beau chapitre sur le développement du jeu.
Eric Baron, Eric Baron qui a bossé tout seul pendant 4 ans sur son jeu alors que sa copine se tuait.
C'est partie des meilleures pages du bouquin moi je trouve.
Ouais, ça raconte tout ça,
c'est vraiment
ça raconte les doutes quoi, le mec il est là en train de...
Ça finit bien,
on lui dit tout le monde lui dit lance ton jeu, il lui dit non il est pas fini et finalement il le lance, c'est un énorme succès, c'est chouette. En tout cas il sort sur Android aussi mais on n'a pas de date pour l'instant.
D'accord.
Marius, la grosse nouvelle du côté des acquisitions.
Et ben du coup on va rester sur du sang, des larmes et des pixels.
Exactement,
puisque
ce que je pensais.
Microsoft a annoncé, enfin Kotaku et plus précisément Jason Schreier qui a écrit le bouquin a annoncé que Microsoft était sur le point de racheter Obsidian. Et c'est assez marrant parce que justement dans son bouquin il revenait sur le développement de Pillars. Donc Obsidian, c'est KOTOR 2, Neverwinter Night, Fallout New Vegas, South Park et Pillars. Et Pillars était présenté pour son modèle un peu vertueux de crowdfunding. Et avant ça, la boîte était en train de développer Stormland, qui était un gros RPG développé pour Microsoft, avec le soutien de Microsoft qui poussait pour faire grossir le jeu,
pour développer soutenir la Xbox One, surtout.
Voilà, ouais, soutenir ça, la Xbox One et essayer de pousser le truc vers le MMO avec des raids et tout ça. Et les mecs d'Obsidian avaient vachement souffert de l'annulation de ce jeu-là.
Tu m'étonnes.
Avaient été ravagés, avaient été obligés de licencier genre 30 personnes, ce qui avait été très douloureux. Et tout le passage était vraiment impressionnant sur comment les mecs avaient essayé de se relever en développant d'autres trucs, genre proposer auprès d'Ubi un Skylander, proposer un prêt 2 après que Bethesda l'ait lâché et avant qu'il soit repris. Et du coup, c'est assez marrant de voir que cette boîte-là se jette dans les bras de Microsoft aujourd'hui. Et ça montre, je trouve, comment il fait froid dehors et que même une entreprise qui a réussi à lancer un crowdfunding, qui a marché, qui a eu un jeu, qui a marché derrière, qui a du soutien, est quand même poussée à chercher un abri.
On en a parlé plus d'une fois ici, c'est cette impossibilité actuelle d'être un gros studio indépendant. Ouais. C'est-à-dire d'être une structure indépendante avec beaucoup de salariés et avec des ambitions, c'est hyper compliqué de le faire en solo.
Après, tu peux, mais il faut diversifier tu peux pas rester juste un studio. Si tu restes qu'un studio, ouais, tu mets tous tes œufs dans le même panier et au moindre gros contrat annulé, t'es dans la mouise, quoi. Ouais. Alors que tu prends par exemple, c'est un autre contexte, on est d'accord avec ça, mais un CD Projekt Red qui a décidé de se lancer aussi sur la distribution, et ben si jamais
l'édition marche moins bien, ou un jeu,
si un jeu marche moins bien, ils ont quand même d'autres choses pour s'appuyer.
Après, ça reste c'est de la rumeur très très forte, enfin qui n'est pas confirmée, mais on se doute que ça va
apparemment c'est finalisé à 90%.
Après, je trouve que c'est un mouvement plutôt malin de Microsoft qui commence à reprendre des studios alors qu'ils avaient un moment complètement lâché. Ils étaient très forts il y a 15-20 ans. Microsoft, ils avaient beaucoup de studios dans le PC très forts, et là je trouve que c'est plutôt malin de se repositionner avec des studios comme ça qui ont des communautés, qui ont des titres forts, des vrais savoir-faire.
Je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu triste de cette situation où on ne peut plus. Justement, c'est vrai ce que tu dis, Corentin, que la seule manière c'est se diversifier. On a entendu ces discours pour un autre secteur en difficulté qui s'appelle la presse, par exemple, où il a fallu se diversifier avant de se faire racheter par beaucoup plus gros que soi. Je ne sais pas. Mais on est dans cette situation-là que je trouve. Voilà. On peut le regretter. On va pas pleurer dessus parce que c'est une situation qui est réelle, qui est actuelle et qui est comme ça, mais qui est une situation regrettable parce que cette économie-là n'a pas réussi à permettre à des gens de s'intéresser uniquement et bien à leur cœur de métier, qui est de faire des bons jeux vidéo. C'est déplorable. Et effectivement, comme tu le dis, Patrick, c'est un bon move de la part de Microsoft, mais est-ce que nous, de la part des joueurs, c'est des choses qui sont vraiment souhaitables? Moi, j'en suis pas convaincu.
Microsoft est dans une dynamique en ce moment de rachat de studios. Bien ils sûr. Ont fait une énorme collection, ils en ont annoncé plein à l'E3, dont Ninja Theory, je crois, qu'ils ont racheté.
Compulsion aussi avec We Happy Few. Ils ont acheté Playgrounds, ce qui a fait Forza.
Un bon mouvement aussi.
Mais là, ils sont en train de se faire une espèce de collection. On sent qu'ils préparent la prochaine génération. Ils n'ont pas envie de refaire.
Ils vont pas lâcher les consoles. Donc, là, pour le coup, on sait aussi qu'il y aura une prochaine Xbox.
Il y a eu une vidéo aussi sur leur système de
Xcloud.
Cloud.
Xcloud, bien sûr.
Et dans leur vidéo, ils précisaient que de toute façon, ils lâchaient pas les consoles et que ça servait de d'expérience premium.
Le bon côté, c'est qu'on peut se dire que ces studios, s'ils passent sous pavillon Microsoft, ils vont bien bosser avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vraiment accès, je pense, à vraiment des facilités, des moyens, etc. Après, ça nous coupe de sorties multiplateformes.
Jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils fassent une Bungie.
positif, optimiste.
Allez, le com des coms de la semaine dernière, avec tout d'abord N qui nous dit H-E-2-N, on n'est pas sur le hate. Autant j'avais été séduit cet été par les aventures du Captain Spirit, autant ce Life is Strange 2 me tombe des mains. Oui, parce que ça tombe bien, parce qu'on en a dit tellement de bien que autant que quelqu'un en dise du mal à notre place.
Ça aurait été étonnant, surtout sur ce genre de jeu, de façon.
Les choix proposés aux joueurs sont minimes et purement cosmétiques, l'histoire étant globalement linéaire. Les séquences de gameplay libres reprennent pour l'instant l'object finding du Captain Spirit de manière terriblement répétitive. Reste donc une sorte de série réaliste animée, plutôt médiocre et ennuyeuse. La relation entre les deux frères est traitée comme avec une mièvrerie écœurante. On a l'impression d'un remplissage très artificiel de personnages extrêmement creux. En même temps, c'est obligé. Face à notre émission qui était dithyrambique sur Life is Strange 2, il fallait s'attendre à un retour de bâton. Je donne aussi la parole à des gens qui ont cette vision-là.
Par contre, objectivement, des listes de courses, on a une au début, je pense qu'il en voit d'autres, mais bon.
Ouais, c'est au tout début, la première séquence.
Je pense qu'il avait peut-être envie de détester Life is Strange 2.
Ça y est, ça parle mal, ça tire à balles réelles.
J'avais envie de l'aimer, donc ça Enfin.
Oui, voilà, c'est ça.
Encore une fois, on met beaucoup de soi dans un jeu d'aventure, encore ce que je disais la semaine dernière. On met beaucoup de soi en tant que joueur et en tant que spectateur, en tant qu'acteur aussi. Oui. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi de son état d'esprit, l'ouverture qu'on peut
avoir. Mais t'as raison,
t'as
raison. Il y a un côté narration en vue subjective.
Il y a ça, donc ça dépend aussi beaucoup de son propre affect, son passé de joueur, etc. Enfin, on en marque toujours. On n'arrive pas vierge sur un jeu comme ça en général. On amène beaucoup de soi-même.
Alors, et puis alors là, pas du tout le même avis, hein, pour Oncle Fernand, qui est votre retour enthousiaste sur Life is Strange, je m'a convaincu, j'avais moyennement apprécié la première fournée, je me trouvais donc dans la même situation que Corentin, ses commentaires m'ont fait sauter le pas et je viens attaquer ce premier épisode, je ne le regrette pas, il y a effectivement quelque chose dans l'esprit de Stephen King qui pointe son nez, les personnages sont très attachants et bien construits, j'avais eu beaucoup de mal à m'intéresser au sort du petit gars de Captain Spirit dont la situation était résumée en deux scènes de dialogue pour ne plus évoluer sur les deux heures de jeu qui suivaient malgré quelques cutscenes, je trouve ce début très puissant émotionnellement et j'espère que ça va continuer car je ne suis pas encore allé au bout de l'épisode. Je me questionne encore un peu sur le chemin emprunté et j'espère que tout ça pourra tenir la route sur 5 épisodes. Nous aussi. Voilà, c'était... Et puis alors, sur les forums, hein, y a un débat sur le cloud streaming sur lequel on ne va pas s'étendre.
Erwan, qu'en
penses-tu ? Non, stop. Non, juste pour dire non, pas du tout. Mais on va s'attaquer à ce sujet. On fera une émission peut-être spéciale avec peut-être les gens, je sais pas.
Avec la Xbox One 2.
Mais non, mais je sais pas, on invitera peut-être les gens de Shadow à parler de tout ça, comme ça, avec... Il y aura des gens... Il y aura des spécialistes qui pourront me dire que je dis n'importe quoi depuis 2 ans. Voilà, ça va être...
Vivement.
C'est ça. Allez, on va commencer le programme jeu avec quoi ? Avec Megaman 11. Allez, le premier datait de Patrick.
87.
Non. Oh, mais quel talent, c'est incroyable.
Si j'avais pas répondu, j'aurais répondu en faisant semblant de le savoir, mais en fait, je l'ai lu à l'arrière de ta feuille.
C'est le premier, c'était sur la NES en 1987, effectivement Patrick, le premier Megaman et ses aventures face au docteur comment ?
Wily.
Ouais. Et on en est au 11e avec une pause, je crois, entre le 7 et le 8 ou le 8 et le 9 de plusieurs
entre
années.
Entre le 8 et le 9, ouais.
Ouais, absolument. Et la série a repris sur des chapeaux de roue, mais on reste sur le même modèle, grosso modo. Mais tu vas nous en dire plus, Corentin.
Ouais. Bah, comme tu dis, il y a eu cette grosse pause là, donc premier en 87, mais surtout le 9 en 2008, donc c'était il y a un moment, et puis alors, entre le 8 et le 9, c'était loin. Parce qu'en fait, il y a eu les 6 premiers sur NES, qui avaient tous là un peu la même formule, avec quelques modifications de gameplay évidemment. Il y a eu le 7 qui est sorti sur Super NES, et le 8 qui est sorti sur PlayStation, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc le 9 est revenu à l'époque, c'était sur Wii, je crois, et sur Wii et sur les autres stores des autres consoles, mais il était revenu avec son graphisme NES, alors qu'il avait évolué entre temps. Puis il y avait eu les Mega Man X sur Super NES, où voilà, qui se passait plus loin dans le futur avec vraiment des jolis graphismes. Donc là,
il y a eu plusieurs spin-offs comme ça d'ailleurs.
Sur console portable aussi, oui, les network machin truc. Bref, je ne suis pas un expert malheureusement.
Un film qui arrive live, enfin bon, c'est une autre question.
Ouais, il y a eu une série animée un peu moche aussi là, il y a pas longtemps. mais du coup voilà, donc Mega Man 9 est revenu en 2008 en disant voilà, on reprend les Mega Man classiques de chez classique avec la même formule de 8 Robot Master plus 4 niveaux de Dr. Wily.
Ça marche bien, c'est vrai que c'est une formule qui à l'époque était innovante, parce qu'on allait choisir, on choisissait le niveau d'entrée de son jeu, c'était aussi une nouveauté de Megaman.
C'est un jeu qui n'est pas linéaire, il n'a jamais été linéaire, en tout cas dans son début, et c'est vrai que ça fait partie de la formule. Le 10 a repris la même idée que le 9 en gardant ses graphismes NES, je crois qu'il a réintroduit le dash, mais finalement il a un peu déçu tout le monde parce qu'il ne changeait pas grand chose, j'avoue moi-même ne pas l'avoir terminé le 10. Et puis de nouveau, gros hiatus de 8 ans hein, quand même, où on n'a plus du tout entendu parler de Megaman. Il y a un Megaman Legacy, je crois, non pas Legacy, enfin il y a un Megaman Legend ou je ne sais plus quoi. Alors, il y a eu des compiles, mais il y avait un projet où on devait pouvoir alterner entre le Megaman japonais, le Megaman dégueulasse des pochettes moches,
ouais, absolument, magnifique,
qui devait sortir. Il a été annulé.
Dommage, c'est une bonne idée ça.
Et finalement, tout le monde se disait, mais c'est fou que Nintendo dans Smash Bros 4 arrive à mieux traiter Megaman que Capcom, qui vraiment c'est une de ses licences phares et n'en fasse rien jusqu'à donc l'annonce de Megaman 11, je crois que c'était l'année dernière, et sa sortie donc le 2 octobre dernier, où on retrouve le Megaman, et réactualisé d'un point de vue graphique, ce qui fait quand même plaisir, parce que Megaman n'avait pas vraiment évolué à ce niveau-là, sauf depuis l'épisode PlayStation, où c'est vrai que la 2D était magnifique, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais là, on est sur une 3D en cel shading, vraiment, vraiment très chou, des textures très simples, un style dessin animé, donc voilà, on est sur du Megaman, donc c'est très inspiré de tout ce qui est Astro, ce genre de choses, donc c'est des grands yeux, des robots très kawaii, des graphismes adorables. Enfin, à titre personnel, je suis assez fan et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à actualiser comme ça Megaman sur cet aspect-là. Et honnêtement, ça marche très bien aussi avec la 2D, donc ça vient pas embêter le gameplay. On a toujours ce gameplay 2D assez précis, peut-être
exigeant,
trop précis.
Hein, il est exigeant. Ouais. Hein, ouais.
Il y a notamment, moi je suis.
Mais c'est bien, enfin, c'est Megaman. C'est l'ADN de Megaman.
Alors,
aussi,
moi, on y reviendra, mais voilà, donc on est sur de la plateforme shooter où il faut voilà, arriver au bout du niveau, abattre le Robot Master qu'on a sélectionné, récupérer son pouvoir, passer à un autre Robot Master, on le fait 8 fois, 4 niveaux de fin, et on finit le jeu. C'est assez court en théorie, sur le papier c'est assez court.
Ça dépend, oui, ça dépend
mais
son,
comme le
son
jeu,
niveau.
Voilà, mais comme le jeu est par nature assez ardu, on est sur du die and retry assez violent,
oui.
En vrai, ça dure quand même bien ces 8-10 heures hein, pour faire les 12 niveaux.
Donc, multiplié par 2 hein, cette durée si vous êtes humainement constitué.
Alors, je pense aussi. Ouais.
Alors oui et non, c'est-à-dire que dans dans la formule Mega Man classique, c'est vrai que on peut passer beaucoup de temps à galérer sur les niveaux parce que la difficulté est ardue. Heureusement, depuis même je crois depuis la NES, hein, mais surtout depuis le 9, a été introduit tout un système d'aide en fait qui permet de continuer malgré tout. On peut s'acheter des vies, on peut s'acheter les e-tanks là, qui permettent de remettre sa vie à fond quand on est un petit peu mal en point. Et ce qui fait que finalement, on va pas s'arrêter net. C'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même continuer, reprendre au checkpoint.
Tu ravales ton amour propre, mais tu continues. Quoi.
Bah, oui et non, parce
il y a un peu de ça. Quoi. Tu dis bon, ok.
Je trouve que c'est assez bien intégré pour pas te foutre trop la honte.
Ouais, pas être décourageant
voilà.
aussi.
C'est-à-dire que tu vas t'acheter quand même d'un équipement qui va te rajouter des compétences, mais ça va pas être marqué comme une aide. En fait, tu vas juste upgrader ton personnage. Donc si t'es un peu nul sur l'aspect difficulté, bah tu peux te dire tiens je vais acheter cet équipement qui va améliorer mon personnage.
C'est
et ça va.
C'est des microtransactions j'espère.
Oui, absolument. Ce sont des microtransactions, mais de troc de boulons. C'est un peu compliqué. Bref, faut les envoyer par la poste. Non, on récupère évidemment des boulons dans les niveaux et ensuite on peut les échanger dans le magasin. On peut soit s'acheter
J'ai redécouvert le terme, mais c'est dans assez. Ils appellent ça time saver.
Time Saver.
Time Saver.
Ah oui, c'est Ubisoft qui appelle ça comme ça, non ?
Time Saver.
Ah, c'est terrible. C'est... Mais bref, non, là, c'est pas du Time Saver, c'est vraiment, voilà, on upgrade son personnage, donc on va lui donner quoi ? La charge du rayon automatique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton de charge pour que le rayon se charge. On va avoir différentes upgrades, ne plus avoir le recul quand on tire lance un tir chargé. On va avoir le fait que les petites jauges se remplissent automatiquement, celles qui sont vides, si on ramasse des munitions, ce genre de choses que chaque arme des boss qu'on récupère a des munitions. Et donc voilà, ça permet en fait de progresser, s'entraîner finalement, parce qu'on devient meilleur, on devient vraiment meilleur, ouais. Mais c'est vraiment hypodermique, ça ne ruine pas notre ego et c'est plutôt chouette. Moi, ce qui m'embête simplement, c'est qu'on reste sur une ancienne formule, mine de rien, qui garde ces espèces de tics qu'on aurait pu vraiment s'en passer. Typiquement, on démarre un niveau avec 2 vies quand on vient de faire un game over, ça va arriver souvent, donc n'ayez pas peur de faire des game over, et on recommence avec 2 vies. Seulement, quand on arrive, seulement, voilà, avoir un game over, ça vous condamne simplement à recommencer le niveau depuis le début, c'est tout, ça vous condamne juste à ça, vous perdez pas votre argent, vous perdez pas les niveaux que vous avez déjà battus. Dans ce cas-là, pourquoi, tant qu'on n'a pas atteint le premier checkpoint, pourquoi on compte les vies en fait ? Moi, c'est ce que je demande. Parce que sinon, on pourrait tout à fait recharger la partie.
Ouais, on perd rien en général. Enfin, quand tu perds une vie trop vite, tu
c'est une perte de temps quand même. Ouais, ça m'énerve. Donc pourquoi ne pas commencer à compter les vies perdues à partir du checkpoint ? Là, ça aurait.
Mais c'est aussi, je pense, l'exercice délicat. Et je trouve que le jeu est très réussi pour ça. C'est-à-dire que visuellement, il met un vrai coup de neuf, comme tu dis. Il est vraiment très joli, il est très coloré à l'écran. Il passe super bien. Et en même temps, donc rajeunir visuellement, mais garder vraiment les fondamentaux de l'ADN de Megaman. Ça pose cette question-là, c'est jusqu'à quel degré on est prêt à bouger justement sur ces carcans qui sont liés à la l'essence Megaman depuis 30 ans passés.
Ad nauseam presque, parce que ce Megaman 11 est
en fait, c'est un
classicisme.
D'ailleurs, c'est un reboot total, parce qu'au début on a un mode, on a des vignettes scénarisées qui nous expliquent. En fait, c'est le début de Megaman.
Oui.
C'est un reboot dans la continuité.
Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du scénario.
Ah oui,
parlons du scénario. Bah non, mais c'est important. Moi, j'aime bien mes petites vignettes explicatives au début.
Parlons du scénario.
Petite cinématique, on t'explique, les robots qui se retournent, machin.
Parlons du scénario, ça va me permettre de parler de la grosse nouveauté de gameplay quand même de ce Megaman. Pendant qu'ils travaillent ensemble au conseil des scientifiques
robotiques,
le Dr. Light et le Dr. Wally ont un désagrément sur est-ce que les robots doivent être considérés comme des êtres à part entière ou bien comme des outils. Le Dr. Light pense que ce sont des êtres à part entière qui méritent notre respect et nos considérations. Le Dr. Wally considère que non, ce sont des outils qui doivent nous aider en tant qu'être humain, mais on doit les pousser à bout.
En fait, à ce moment-là, je vais demander à te couper le micro.
Le conseil tranche en faveur de Light et Wily part dans son château maléfique et devient méchant. Voilà.
Sort du Kadic, du Asimov.
Donc, c'était le scénario. À la fin, Wily est défait et s'excuse comme dans tous les Megaman.
Non, mais c'est bien fait. Moi, j'aime bien les petites vignettes au début.
Oui, c'est joli.
C'est vrai.
Et c'est bien doublé.
Et pour
voilà.
ceux qui connaissent pas du tout l'univers Megaman, tu rentres dedans en ayant un background et ce qui se passe.
Et puis, si vous êtes un gros weeboo comme moi, vous pouvez avoir les voix en japonais et ça vous rendra heureux. Mais parlons surtout de la grosse nouveauté de gameplay, parce qu'il y en a une quand même et qui est notable. C'est le système du double gear ou du double gear, comme dit notre ami Megaman en version originale. Il s'agit en fait d'un outil qu'on peut utiliser vraiment à tout moment, et c'est une jauge pour ralentir
c'est
temps
foutu, ça, ouais.
ou améliorer son attaque. Et en fait,
vous pouvez aller plus vite, non ? Il y a pas un moyen aussi, ça nous fait non, pas.
En fait,
vite.
C'est ralentir le temps techniquement.
Ouais, tu vas plus vite quand
plutôt
des plateformes
tout va plus lentement
des
en fait.
Obstacles, ouais.
Voilà. Et en fait, c'est la même barre. Et cette barre là, en fait, c'est ça, c'est la surchauffe en fait de Megaman. Donc, on peut évidemment alterner entre les deux, mais ça va être la même barre qui va grossir. Et une fois qu'elle est pleine, Megaman va devoir aura un gros temps de cooldown où il ne pourra ni utiliser l'un ou l'autre des pouvoirs, ce qui peut vraiment nous mettre dans la mouise à certains moments, parce que les Robot Masters aussi utilisent leur pouvoir d'accélération et de puissance. Donc, si vous n'avez pas vous-même votre pouvoir de ralentir le temps, le robot en face, il ira très vite et ça va être très compliqué de le gérer. Donc il faut vraiment gérer comme il faut cette jauge-là. Et surtout, il faut l'arrêter manuellement. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un œil sur sa petite barre tout en évitant les attaques ennemies. Parce que si jamais vous surchauffez, c'est pour votre tête. Et si vous n'avez plus beaucoup de vie, il y a un seuil sous lequel vous passez et c'est le seul moment où vous pouvez déclencher le 2 en même temps. Et là, vous allez très vite et vous êtes surpuissant pendant un temps. Et là, par contre, c'est surchauffe obligatoire. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et en plus, votre rayon normal, il est cassé et il faut attendre un long moment avant de retrouver une capacité normale. Donc c'est un tout ou rien que vous utilisez au dernier moment. Et je trouve ce système très intéressant. Ça apporte du renouveau, c'est utilisable vraiment partout et ça permet de donner un petit peu neuf quand même au gameplay, parce que sinon ce Megaman, c'est à la fois une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les Megaman classiques, parce que c'est un Megaman classique, je veux dire, vraiment c'est la même recette, c'est les mêmes choses c'est une mauvaise nouvelle pour si vous n'aimez pas les Megaman classiques, vous n'allez pas aimer celui-là, n'y allez pas, vraiment c'est vraiment la même chose. Du coup il a les défauts d'un Megaman, il a les qualités d'un Megaman, soyez juste au courant de ça.
Ça peut être un bon chapitre pour découvrir aussi, je pense.
Alors oui, moi je conseillerais soit celui-là soit le 9 à titre personnel, sachant que celui-là je le trouve un peu cher, il est à 30 balles.
20 ou 30 ?
Il est à 30 balles sur Steam.
D'accord.
Je le trouve un poil cher. Du coup, j'aurais tendance à conseiller d'abord Megaman Legacy 2, dans lequel il y a Megaman 9, pour savoir si c'est votre truc, si vous connaissez pas Megaman.
C'est pas la même réal, du coup, on n'est pas sur une réal moderne.
Alors, on est sur
une
réal NES, mais excusez-moi, c'est la même chose.
Après,
c'est
bien sûr, il faut bien le préciser, on n'est pas sur les mêmes canons de réalisation.
Mais voilà, si vous aimez les Megaman classiques, vous avez fait les 10 premiers et que c'est votre cam, allez-y, mais largement, c'est un Megaman. Il y a plein de modes défi par ailleurs, si jamais vous en avez pas eu assez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce Megaman.
Megaman 11 dispo sur PC pour l'instant et
Switch.
Et Switch.
PC, Switch, PS4, Xbox One.
Ah bah oui, partout. Partout du coup, c'est ça. C'est le moment d'accueillir la chronique jeu de plateau de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors toi, dans le jeu vidéo, tu as des Total War, des Prison Architect, des Frostpunk. Et ben nous, dans le jeu de plateau, on a aussi des jeux qui nous pètent bien les ménages. Cette semaine, je veux vous parler de Clans of Caledonia, un jeu où vous allez passer 45 minutes, une heure, juste à lire les règles. Et on se retrouve au 19e siècle en Écosse, dans les Highlands, avec nos amis le clan Cunningham, le clan Mackenzie, McDonald's, Fergus Wilson, ils sont tous là. Et on va revivre avec eux cette période de transition depuis l'agriculture vers l'industrialisation. On va gérer des commandes, on va gérer de la production, de lin, de lait, puis de fromage. On va gérer notre croissance démographique, nos bûcherons, nos mineurs. On va gérer notre expansion territoriale pour coloniser des plaines, des forêts, des montagnes, pour traverser des lochs. Et puis on va gérer nos élevages de vaches, de moutons, qu'on va pouvoir tondre ou manger selon notre stratégie ou le contexte. Tondre les moutons, pas les vaches, hein. Et puis on va gérer nos exportations, tout particulièrement celles de whisky, évidemment. Il y a la carte centrale avec des hexagones, tous les terrains avec les différents bâtiments qu'on va construire au fur et à mesure. Il y a les plateaux communs, avec les objectifs communs, avec les différentes ressources, avec le marché qui va pouvoir fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Et puis sur les plateaux individuels, chaque joueur va recevoir une armée de pions de sa couleur. Des pions d'animaux, de bâtiments, de ressources, de personnages, de commerciaux, de technologies, etc., etc. Chaque joueur va se voir attribuer un des clans. Chaque clan, évidemment, sa propre spécificité. Et on va planifier, gérer, s'amuser. Alors oui, ça va prendre 2-3 parties avant de bien comprendre comment ça fonctionne. Il faut bien regarder ce que les autres vont faire, sur quoi les autres vont investir. Il faut penser aux équilibres, aux complémentarités entre les joueurs. Il y a plein d'actions spéciales, d'actions bonus qu'on va déclencher en alignant les étoiles. Et puis, il y a ce moment en fin de jeu où on va compter les points. On a toujours cet espoir de ne pas finir dernier. Et même parfois la surprise de voir les plus intelligents d'entre nous se planter complètement. Le nom du jeu, Clans of Caledonia, de l'auteur Juma Aljoujou, de 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans. Sur la boîte, il y a marqué 30 minutes par joueur. Si vous voulez vous lancer, vous avez une bonne après-midi, vous êtes en vacances, vous avez des amis motivés, c'est le top. Par contre, si vos amis n'ont pas de patience, ils mettent des coups dans les pieds de la table quand ils sont pas contents, là, non, passez votre chemin. Mais moi, j'y ai joué et j'ai aimé et je vous le recommande. Je vous dis à bientôt. Préservez votre santé, préservez votre vie sociale, jouez au jeu de plateau. Bye bye.
Bye Jérémy, merci pour ce Caledonia qui me rappelle les plus grandes heures des jeux très très longs qui prenaient des après-midi entières quand j'étais jeune. Vous avez joué à des grands jeux de plateau genre Civilization, machin et tout ça? Non,
je suis pas toujours très fan des jeux de société qui durent beaucoup trop longtemps. J'aime bien le... Voilà, 2 heures c'est bien, au-delà
c'est concept. Non, mais c'est après ça, c'est la mode contemporaine des jeux de plateau qui sont les jeux apéritifs, qui peuvent durer.
Jeux cocktail, ouais.
Jeux cocktail et tout ça, mais c'est vrai que les grands gros jeux de plateau où il fallait compter les points, bah,
Il y a un jour, on a essayé de faire un Horror Arkham qui est donc l'adaptation de l'univers de Lovecraft, absolument. Et en fait, on a passé le dimanche à lire les règles et on n'a jamais joué.
Il y avait de ça. C'est le moment du gros. d'un des gros morceaux de cette rentrée. Il y a beaucoup de gros morceaux dans cette rentrée. Année, hein. Et on n'est pas arrivé au plat de résistance encore, hein, celui-là. En plus, tu sais, c'est avant, au début d'un repas, tu as juste l'impression qu'il ne faut pas trop que tu manges trop, tu sais, pour ne pas être en indigestion au moment où le plat de résistance arrive.
En même temps, on peut se faire plaisir, donc on y va, qu'on mange.
On y va, allez, on a de l'appétit, c'est Assassin's Creed Odyssey.
Les choix que l'on fait, quels qu'ils soient, peuvent nous mener à la gloire ou à notre perte. Le choix d'écrire sa propre histoire. D'être qui l'on veut être.
Et nous, on ne mérite pas de mourir.
Le choix de la compassion.
Pitié.
Laisse-les partir.
Comment?
Tu n'es pas un dieu.
De l'amour.
Ou de la haine. De la paix.
Ou de la guerre.
Assassin's Creed Odyssey, du jeu ou du jeu vidéo.
Malgré tout le mal que je pourrais dire à un moment ou à un autre, le trailer est horrible. Le jeu est bien mieux que ce trailer et il ne méritait pas ça.
C'est entre le jour et la nuit.
Assassin's Creed Odyssey, donc on se retrouve cette fois-ci en 431 avant Jésus-Christ. Alors ça, j'ai compris que récemment, c'est-à-dire que c'est 382 ans avant l'histoire de Bayek dans Assassin's Creed Origins. Je sais pas, mais c'est quand j'étais petit, j'ai toujours mis l'Égypte, puis la Grèce, puis tout le reste.
T'es en train de dire que c'est Assassin's Creed Origins, Origins.
Exactement.
Excellent.
C'est-à-dire, on est avant Assassin's Creed Origins.
Avant donc, l'épisode fondateur.
Même presque 4 siècles avant, donc avant les histoires de Bayek. Et donc, on est dans la guerre du Péloponnèse. Hein, voilà, j'ai situé un peu le grand contexte de ce... j'allais dire le numéro de l'opus, mais en fait, je sais pas. Hein. Ah oui, je sais même plus où on en est. Allez, Marius, tes aventures en Grèce, ça donne quoi ?
Eh ben, je ne sais toujours pas. Ça fait 40 heures que je joue.
Ah oui.
Donc le jeu est bon, si quelque part j'y reviens et que je continue à me perdre dedans, c'est qu'il est suffisamment bon. Mais j'ai du mal à retrouver l'excitation que je pouvais trouver à chaque fois dans Origins. Il y a tous les mêmes ingrédients, c'est mieux écrit, c'est tout aussi joli. J'ai pas vraiment d'excuses pour aller contre ce jeu. Mais je ne retrouve pas l'hypnose qu'il pouvait avoir. J'ai l'impression qu'il y a un problème topographique sur ces petites îles toutes morcelées qui fait qu'on a l'impression de faire des petits sauts de puce, de ne pas avoir le même appel pour la découverte, pour aller s'abîmer le long de
Mais c'est vrai que c'était un détail, mais un détail qui était absolument sublime dans Origins, c'est le fait
l'appel
des pyramides. Ouais. Qui te tient tout le début du jeu avec une puissance symbolique, représentative qui est magistrale, c'est-à-dire que tu as cet horizon avec les pyramides, les grandes pyramides d'Égypte, et que tu sais, tu vas les voir, elles sont là, tu vas les voir, mais tu n'y es pas encore. Il va falloir aller à Alexandrie, il va falloir faire on les voit au bout d'une quinzaine d'heures, je crois, de 10-15 heures dans Assassin's Creed Origins.
Ouais, et puis surtout, tu retardes ce moment-là, en fait.
Oui.
T'as envie d'y aller, mais tu te dis qu'en toute raison, il vaut mieux explorer ce que t'as autour de toi et repousser ce moment pour vraiment prendre plaisir. Là, la carte est très grande, elle est belle, mais on a toujours l'impression de faire des sauts de puce. Les passages en bateau sont finalement assez courts. On passe d'une zone à une autre sans trop réussir à les marquer graphiquement. Il y a juste en 40 heures, moi, il y a un moment qui m'a vraiment époustouflé visuellement, qui est sur une île perdue en bas de la map, qui tranche un petit peu avec la verdure. Après, c'est très beau, hein, c'est pas des reproches, mais je trouve que ça me manque un peu de grandiose.
Patrick, tes premières impressions, toi ?
Moi, j'ai jamais caché que j'étais assez attaché à cette série. Moi, je trouve qu'elle est fascinante dans les différents contextes, dans les différentes ambiances, les différentes époques qu'elle a abordées. Moi, je suis à peu près à 10 heures de jeu. Hein. C'est noté, on a le compteur dans le jeu. Donc, je suis au tout début, finalement. En 10 heures, on gratte un petit peu la surface du jeu. Moi, je suis fasciné. Je suis juste fasciné par l'ambiance. Alors, je suis d'accord qu'on n'est peut-être pas sur le même contexte de carte que sur Origins. Moi, je trouve qu'il y a je la trouve vivante visuellement. Je trouve qu'il y a elle est organique. Alors, c'est le mot qu'on utilise beaucoup ces temps-ci. Mais je trouve qu'il y a un côté. Moi, j'ai été pris tout de suite dès le début quand on est lâché dans cette carte. Dès les premières minutes du jeu, je trouve qu'il y a un aspect. On a l'impression que c'est vivant autour de soi. C'est vert, le ciel est bleu, c'est magnifique. Moi, j'ai pas arrêté de faire des captures d'écran avec c'est tout bête, avec le clic là sur le côté gauche. J'ai pas arrêté de faire des captures d'écran tellement j'étais bluffé par des images, des paysages, alors déjà il y a ça, c'est-à-dire qu'on est tout de suite embarqué par l'image, par le décor. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Alors moi, étonnamment, j'ai pas eu ce problème de comme tu dis, de saut de puce avec l'échelle. Moi, au contraire, je suis à 10 heures de jeu et j'ai l'impression que plus j'avance et plus la carte me paraît gigantesque. Alors je crois que ça a été confirmé que c'est la plus grande carte à ce jour. Voilà, si on doit mettre des chiffres au kilomètre carré, non, je suis pas là-dessus. Moi c'est dans mon ressenti, c'est-à-dire qu'au bout de 10 heures de jeu, j'ai l'impression on passe beaucoup de temps sur une première île au début, puis après on part, et bon, évidemment, c'est un moment important. Et là, on se rend compte finalement j'ai l'impression que la carte s'agrandit au fur et à mesure. Je me rends compte que voilà, les heures que je passe, c'est sur une toute petite portion de cette carte qui est gigantesque.
Et mais il y a un truc de frustration, je trouve, dans la circulation dans la map. Typiquement, quand on accède au bateau, on a envie de pouvoir descendre et d'aller un peu partout dans la map. Et en fait, on est frustré par la zone de Mégaris qui vient bloquer le passage en bateau. Et t'es soit obligé de contourner complètement et du coup de faire un voyage super long qui est pour le coup plutôt sympa, ou de téléporter ou de redescendre et de prendre ton cheval. Mais c'est plus frustrant qu'autre chose en fait dans la construction. Alors après, ça doit être il y a un truc très bête de géographie où c'est difficile d'aller péter la Grèce pour faciliter reste frustrant.
Moi, je trouve que c'est aussi je pense que c'est aussi la caractéristique de cette carte, c'est justement le mariage entre la mer et la terre. Enfin, c'est vraiment le sujet de cette carte-là en particulier. Alors moi, je trouve que il y a quelque chose de fascinant dans le contexte, même dans le côté rendu cinématographique. Moi, j'ai vraiment, même dans les dialogues, on a quelque chose qui vraiment joue sur les codes du cinéma. On a vraiment quelque chose de ce niveau-là. Et puis, je trouve qu'il y a une formule qui marche bien. Et moi, je suis ravi. Enfin, là, c'est une série que moi, je suis depuis des années. Et là, je vois que les critiques sont bonnes sur celui-ci. On sent qu'il y a eu une remise en question depuis Origins sur la série, sur les mécaniques. Et là, on voit qu'il y a plein de choses qui fonctionnent bien. L'aigle, le système de l'aigle pour arpenter une carte de loin, préparer sa venue sur une carte, les systèmes de dialogue qui ont évolué aussi, qui ne sont pas toujours
parfaits, qui n'ont pas évolué, ils sont arrivés. Il n'y en avait pas avant.
Ils sont arrivés depuis récemment, et je trouve que ça marche bien. Tout ça fait une formule qui fonctionne bien. Ce système de RPG qui s'est un petit peu imbriqué. Alors, je sais qu'Erwan, toi, tu bloques sur ce qu'on avait parlé sur Tomb Raider. Moi, je trouve que ça marche bien parce que finalement, j'ai passé plus de temps sur celui-ci que sur Tomb Raider dans la gestion du personnage, de ses caractéristiques, de son équipement surtout. Et je trouve que ça marche bien. On est plutôt guidé. Il y a des petites alertes. Ah, t'as récupéré un truc qui est plus fort, donc t'es plutôt aidé. Et ça contribue aussi, je trouve, à une progression dans l'expérience qui fait que moi, je suis à 10 heures de jeu et j'ai vraiment envie de continuer. Enfin, j'ai plein de choses encore à découvrir.
Je trouve que le système de dialogue est vraiment pas anodin. Il est peut-être pas réussi comme pouvait.
Pas toujours. Je trouve que ça dépend vraiment des passages. Voilà, on n'est pas sur les mêmes.
C'est pas aussi riche, aussi profond.
Des fois, c'est même un peu factice. Ça sert pas à grand chose.
Ouais, mais je trouve que ça permet au jeu d'éviter un des écueils classiques des assassins, c'est que ça donne une couleur au personnage. Ça laisse le joueur en charge de donner un petit peu d'âme à Cassandra, parce qu'on sait toujours pas qui va opter pour les hommes et
Alexios.
Et Alexios, la possibilité de jouer encore un barbu de 30 ans, c'est super. Mais voilà, ça permet de donner.
Ne sous-estime pas les gamers.
Mais ça permet de donner un petit peu de chair au personnage de façon libre. Et d'éviter ce que tous les assassins ont fait avant.
Et puis il y a un système, c'est tout bête, mais je crois que c'est le nouveau mode de jeu là, qui fait qu'on n'est pas aussi guidé qu'avant sur la carte. Ouais. Alors ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais. Alors moi, je me suis perdu, je vous dis que j'ai perdu des heures. J'avais une mission où il fallait que je trouve une île pour embarquer quelqu'un dans mon équipage. Et j'ai perdu du temps, je me suis trompé d'île. Et du coup, j'arpentais. Mais finalement, c'est réaliste. C'est-à-dire qu'on a pu c'était souvent une reproche des Assassin's Creed où on te donnait un objectif et paf, t'avais la carte avec le voyant lumineux, aller là-bas. Et finalement, tu n'explores plus. Et là, non, en optant au début du jeu, quand on lance la partie, on choisit ce mode, je ne sais plus comment il s'appelle.
Exploration.
Exactement. Oh. Voilà. Synchro. Et du coup, c'est presque de l'énigme. On te dit, va voir une île dans le sud de telle région, il y a une épave sur cette île et débrouille-toi. Il faut que tu ailles trouver un type là-bas.
Est-ce que vous avez vu la news sur Red Dead Redemption 2 qui est tombée? Tu supprimes la minimap. C'est-à-dire que là, on y va. Hein. On supprime carrément la minimap et à ce moment-là, les gens vont t'indiquer il faut prendre la route au sud et vous allez voir une montagne.
C'est intéressant, on l'a déjà là quelque part.
Je me rappelle quand je suis venu pour parler de Firewatch et j'ai dit, faut retirer la carte, enfin retirer le positionnement sur la carte, c'est vachement mieux, c'est plus rigolo. Là, tu viens me dire que c'est du génie dans Red Dead.
Calmons-nous.
Je suis colère.
Là, sur Assassin, on a toujours notre carte. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit jeu d'énigmes, trouve l'endroit, on te donne des indications.
C'est plus plaisant de toute façon depuis origine.
Et du coup, moi, j'ai perdu, très concrètement, sur mes 10 heures, j'ai dû en perdre 2 sur une île qui n'était pas la bonne. Mais j'ai pris mon pied parce que j'ai exploré, je suis parti sur des endroits où j'aurais pas dû aller, je me suis retrouvé avec justement des adversaires trop forts, et j'ai trouvé par exemple des grottes, je suis tombé sur des grottes, j'ai trouvé des trésors que j'étais pas censé trouver tout de suite, mais du coup tu es vraiment dans l'exploration et je trouve que ça apporte, et c'est ça pour moi un jeu en monde ouvert, c'est acquérir l'espace, c'est comment tu l'appréhendes. Et je trouve que ce système de petites énigmes, de petites indications un peu floues,
ça
toi
oblige à s'approprier la carte et à chercher,
je trouve tu vois que cette carte entre la terre et la mer s'y prête bien, parce que du coup justement tu explores, tu vas tomber sur une île, finalement c'est peut-être pas la même, mais tu vas quand même trouver des choses, etc. Et je trouve que c'est génial, ce système d'exploration, on est quasiment pas sur du jeu d'aventure, mais sur vraiment de l'énigme pour trouver des endroits. Je trouve ça, c'est super immersif, quoi. Vraiment. Et ça te retire ces épingles que tu avais sur la carte qui était trop facile, ou finalement quand on te donne un point à donner, tu files.
Il y a toujours beaucoup d'épingles sur la carte.
Bien sûr, mais pas les essentiels.
Tu peux trier et
peux retirer et t'as pas les essentiels.
Le jeu pousse clairement à l'exploration.
Tu peux choisir de les avoir à l'ancienne. Tu peux jouer à l'ancienne avec si tu préfères, mais je trouve que ça apporte tellement de liberté, de sensation de liberté.
Alors il y a des choses à noter quand même, c'est que ils ont peut-être appris, je ne sais pas si alors je trouve le début beaucoup plus digeste que Origins, parce que je sais pas si vous vous souvenez de la première heure de jeu d'Origins qui était un grand n'importe quoi, où on arrivait, on te parlait de trucs,
le début,
tu comprenais
t'es dans 300 de Snyder directement.
Ne parlons pas de ce petit prologue un petit peu tout pourri.
C'est toujours indigeste.
C'est le début.
Oh non, c'est lourd.
Mais c'est le début.
Bonjour, on vous propose la suite de 300. Vous avez joué à...
Non, mais une fois que t'es lâché, c'est vrai que l'interaction avec le premier... personnage non-joueur qui est plutôt marrante et plutôt inattendue.
Ignoble.
Et on sent que de toute façon, ils font plus attention.
En fait, le jeu, j'ai l'impression qu'il est conçu pour que tu arpentes cette première île dans tous les sens.
Oui, mais c'est bien.
C'est vraiment bien. Bah, c'est une sorte de didacticiel. Et bon, on va pas spoiler, mais c'est vrai que le générique arrive assez tardivement, au bout de quelques heures de jeu, et tu sens que tu passes à une autre dimension. Et c'est là, je trouve que le jeu lâche complètement.
Et globalement, pendant les 20 premières heures, toutes les 5 heures, le jeu rajoute une couche de gameplay en plus.
Et c'est plutôt bien fichu. T'es vraiment pris. Puis moi, il y a ce truc qui pour moi apporte une tension, c'est que pour moi les Assassin's Creed en général t'es un peu, alors je dirais pas dans un parc d'attractions, mais tu te balades avec tes aiguilles sur la carte, tu fais des trucs, et là il y a ces histoires de mercenaires mais qui te foutent une pression
beaucoup plus, c'est beaucoup plus compréhensible que dans Origins.
Ah mais moi ça
Origins on les voyait, il y avait ces mercenaires qui étaient là et
il y en a beaucoup plus aussi dans Origins il y en avait 10 qui étaient vraiment
dangereux,
là il y en a beaucoup plus qui
et ils sont super stressants, c'est que tu fais tes missions à la cool, parce que des fois t'as des missions FedEx toujours dans les Assassin's Creed, alors tu fais tes missions tranquilles, puis est-ce que tu vois un truc sur la carte qui clignote, et t'as un type en furie qui te suit partout, qui est souvent 2-3 niveaux au-dessus de toi, qui te met une mandale si tu le croises.
Et même s'il est au même niveau que toi, il te met des mandales.
Ils sont très très forts. En fait, c'est selon tes activités dans une région, tu as donc des mercenaires qui sont engagés pour te stopper, en fait. Et je trouve que ça met une pression. Des fois, ces mecs-là déboulent en pleine mission, c'est-à-dire que t'es en train de tabasser des ennemis un peu costauds dans un fort, etc. Et hop, t'as un mec comme ça en furie qui débarque, qui te fout une mandale. Et je trouve que ça apporte une tension vraiment en plus par rapport au code habituel de cette série qu'on connaît depuis 10 ans. Et je trouve vraiment que ça amène une tension, et t'es tout le temps à surveiller si t'as pas un mec. En plus, ça a des effets sonores quand un type arrive. Et en général, tu te fais discret, tu fais gaffe, quoi. Et je trouve vraiment que c'est un vrai plus. Ça apporte vraiment de l'imprévision, de l'imprévisible, des moments vraiment de montée de stress que tu vois pas venir forcément.
Ou au contraire, c'est plutôt marrant d'aller traquer un mec
pour chasser. Mais il faut être sûr de soi. Enfin, t'as intérêt à faire gaffe quand tu les pourchasses.
Ouais, mais j'aime bien cette possibilité aussi qu'offre le jeu d'aller traquer les mecs.
On te dit, bah ramène-moi ce mec-là parce que. Ben, ça apporte un côté un peu de folie dans un jeu qui est plutôt avec une évolution, des missions bien calées. Je trouve que ça, il y a un effet un peu bazar et qui est assez stressant et qui déstabilise pendant la partie. C'est un vrai plus.
Mais alors pour le coup, moi j'ai trouvé. Alors parlons quand même de ce premier. Enfin, c'est pas le premier parce qu'on sait dans Syndicate on pouvait jouer les deux frangins, le frangin et la frangine. Mais quand même, c'est la première fois qu'on a une héroïne et il y a Révolution aussi.
Libération.
Libération, qui était sur la Vita ou la PSP.
Qui est adaptée.
La PSP, ouais. Je suis sûr qu'elle soit capable de PS3, faire tourner.
Là, il y a Cassandra, donc l'alternative, qui est pour le coup un très beau personnage féminin, vraiment badass et on n'est pas du tout sur la poupée sur ce genre de choses.
C'est normal, c'est le même personnage, juste ça peut être un homme ou une femme.
Mais pour le coup, mais même physiquement, je trouve qu'elle est bien designée, c'est super intéressant. Pas du tout. Et elle prend bien son, enfin elle est totalement crédible, tu vois. Il y a des fois justement avec ces mêmes lignes de dialogue un peu pour l'homme ou la femme, des fois ça aurait pu sembler décalé, enfin non, là pas du tout, tout
semble naissance à un personnage extrêmement lisse, du coup, qui était si peu identifié qu'il pouvait changer de sexe et compagnie. Et là, justement, la roue de dialogue est assez importante pour redonner une petite épaisseur.
Petite vanne, parfois, spécifique.
Alors, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu une scène sur internet impliquant un borgne, un œil de verre et un mouton, mais c'était extraordinaire.
C'est vrai que cette scène, elle est
incroyable. Cette scène,
elle est très, très
bien. Je l'attendais, mais pas du tout ça de
on
la part
pas spoiler,
de
Ubisoft. Ah, non, tu la vois venir en plus.
C'est trop drôle.
Quand tu le vois venir, tu dis non, ils vont pas le faire. Ah bah si.
Et honnêtement, c'est d'habitude, ce que je reprochais toujours aux Assassin's Creed, alors honnêtement, je suis pas un grand fan de la série, et c'est vrai que le dernier que j'ai fait, c'était Unity, donc tu vois, moment.
C'est ce qui t'a pas aidé à devenir.
Mais j'avais adoré Black Flag en comparaison, mais du coup, c'est vrai que les scénarios un peu imbuvables avec des personnages qui n'ont pas de profondeur, hormis je suis un Templier, donc il faut répondre à ce plan qu'on a mis en place, là c'est bien, j'ai l'impression d'avoir des vrais personnages qui se font des vannes et tout, du peu que j'ai vu des cinématiques de ce
jeu. C'est un jeu qui est assez sanglant, même, je trouve. Même il y a des parties pris, parfois t'as des scènes, quand même, ils y vont. Quoi. Je dis que c'est pas plus mal.
Et l'écriture a maturé, je trouve. Typiquement, avant, on nous donnait toujours des camps auxquels on devait se rallier et compagnie. Ouais. Là, je trouve que c'est assez malin dans la façon de mettre en scène le combat entre Sparte et Athènes, où on est vraiment mercenaire et du coup on peut choisir de jouer un camp contre l'autre, de passer de l'un à l'autre sans aucune morale, ou essayer de façon roleplay de plutôt assumer un camp plutôt que l'autre. C'est plutôt marrant. Après, il reste des trucs d'écriture qui sont un peu lourdingues. Typiquement, les romances. Je suis désolé, mais on est très très loin des trucs de BioWare. Là, ça fait un peu... je te fais trois missions et c'est bon. T'es à moi. Et globalement, bah, je trouve qu'un des... Si l'écriture, encore une fois, s'est vraiment améliorée, je trouve qu'il y a un problème dans le concept d'Odyssée, c'est que les compagnons avec lesquels on se balade sont globalement assez lisses.
Ouais.
Moi, j'ai du mal à accrocher à ce Hérodote qu'on est censé suivre comme un guide. Et globalement, tous les gens qu'on croise, on les croise pour 4-5 missions et il n'y a pas beaucoup de construction au-delà de ça, même si on peut les embaucher sur le bateau et compagnie. Ouais. C'est pas...
Mais dans ce que tu as dit, on retiendra quand même qu'il y a une évolution dans le bon sens sur le plan narratif dans un Assassin's Creed, ce qui reste quand même une excellente nouvelle. Non, mais c'est des petits détails. On n'est pas au niveau de The Witcher, on n'est pas au niveau de GTA, on n'est pas au niveau de Rockstar, on n'est pas... Mais c'est aussi ce qu'on attend d'Ubisoft, je trouve. C'est-à-dire que depuis des années et de nombreuses années, on sent qu'ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel de faire des très, très, très grands jeux parce qu'il y a la technique, parce qu'il y a une certaine maîtrise du gameplay, parce qu'il y a des ambitions aussi. Et les ambitions sont là. Et il y avait toujours... Il y avait toujours
des environnements, des thématiques. Ils s'attaquent quand même à des beaux morceaux.
Il y a des paris qui sont faits sur des grands jeux, Watch Dogs 2, ou sur des choses qui sont bien. Mais toujours, il y avait ce côté où c'est pas forcément que c'était hyper mal écrit, c'est-à-dire que les scénaristes sont pas des branques, mais qu'il y avait un manque d'ambition narrative, où il y avait un manque de... ça prenait pas un rôle tel que ça devait prendre. Et pour le coup, je trouve que on est encore loin, comme tu l'as dit, de la perfection, on est encore loin de ces références qu'on a citées, mais il y a une progression, il y a quelque chose qui... Et moi, c'est vrai, j'ai jamais senti... une histoire aussi tôt et aussi facilement dans un Assassin's Creed. Même si, voilà, c'est peut-être cette petite roue de dialogue. Et puis même des dialogues qui sont moins neuneux et plus surprenants que d'habitude, avec des sorties complètement improbables de Cassandra, qui est d'une vulgarité absolument incroyable à certains moments. Et c'est réjouissant. C'est réjouissant vrai. Parce que ça veut dire qu'on ose aller sur des pans qui sont intéressants.
Je te trouve assez gentil sur le niveau de base sur lequel tu mettais Ubisoft d'un point de vue narratif, que j'ai toujours trouvé assez mauvais.
Non, je suis dans la narration, il n'y a pas que les dialogues, je les ai toujours trouvés assez moyen sur l'écriture de dialogue et au mieux moyen, on va dire, sur l'écriture de dialogue. Mais il y avait des ambitions sur l'univers narratif dans certains jeux qui étaient hyper intéressants.
Parce qu'on aborde qu'un des sujets liés à l'histoire. Donc moi, je pense que c'est aussi... Je pense que en étant accompagné, évidemment, ça peut vraiment être des vrais outils pour s'initier à une période, à un contexte historique. Évidemment, il faut accompagner. On sait qu'on est comme au cinéma, Hollywood, on est sur une interprétation, on est sur de la fiction, mais quand même, il y a des messages qui peuvent passer. Et je pense que même pour des profs, ça peut être un outil de base qu'il faut accompagner.
Développe avec le Discovery Tour, qui vont refaire.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Ils vont le refaire.
Et moi, j'aurais eu un jeu comme ça, ado ou. Mais j'aurais adoré justement parce que ça peut être un moyen aussi de s'ouvrir à des thématiques et peut-être de donner l'envie d'aller après se renseigner sur des outils plus sérieux, entre guillemets.
Après, moi, ça peut être un souffre moyen aussi de sa régularité, quoi.
Ah non, mais totalement.
Il y a un effet abrutissant. Moi, en parlant un peu au boulot, les mecs étaient choqués de savoir qu'il y avait un nouveau assassin et qui revenait sur le Discovery Tour qui est sorti il y a 6 mois. Et du coup, maintenant, t'as un jeu en octobre, le Discovery Tour en janvier et le jeu suivant qui revient. T'as un effet de martèlement qui est un peu lassant.
Avec une pause l'année prochaine.
Alors l'année prochaine, il y a une pause, c'est super, c'est très bien. Mais
ils vont faire une pause d'un an, mais en attendant, Rockstar, il sort un jeu tous les 6 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas demander la même qualité à un jeu Ubisoft qui sort tous les ans ou tous les 2 ans.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est la route qui est empruntée par Ubisoft. On sait très bien qu'Ubisoft a énormément de grosses licences et qu'ils arrivent à les faire vivre. Et en plus, qu'ils sont rentables, donc ils vont pas s'arrêter. En si bon chemin.
Mais nous, on n'est pas là pour juger la rentabilité, on est là pour juger la qualité.
Non, mais tout à fait. Et c'est pour
mais
ça
la qualité
que.
La qualité là, en plus. Mais c'est juste, il y a une envie de joueur aussi qui est peut-être là. Enfin, moi, perso, j'avais moins envie d'aller dans cette Grèce antique si tôt après Odyssey, quoi. Après Origins.
Encore une fois, les critiques sont plutôt bonnes. Les ventes, a priori, sont bonnes aussi. Enfin, tous les voyants sont plutôt au vert sur ce titre. Donc, c'est plutôt. Je trouve que c'est plutôt encourageant. Puis moi, je retrouve, c'est tout bête, mais je trouve que, comme je disais, il y a un mariage de plusieurs choses. Il y a un aspect RPG, il y a un aspect. Et il y a un vrai côté exploration. Moi, je me suis retrouvé un peu à la Tomb Raider, à explorer des grottes, à faire beaucoup de séquences sous l'eau, à trouver des trésors, etc.
Les points communs avec Tomb Raider sont quand même assez hallucinants. Quand tu joues Cassandra,
ouais.
Effectivement,
ouais,
tu te retrouves avec une brune qui escalade des parois pour trouver des artefacts anciens.
Et d'ailleurs, il y a aussi ça. Il y a même le Zelda. Enfin, on sent que justement, le côté escalade est beaucoup mieux géré qu'avant. Enfin, je trouve qu'on a vraiment... on sent que... Je pense que le Zelda est passé. Alors, je pense qu'en termes de prod, c'est pas aussi simple que ça, parce que ce jeu, il est en développement depuis plus longtemps, mais... On sent qu'il y a des améliorations dans pas mal de pas mal de points, et notamment sur l'appréhension du décor, la façon de justement d'arpenter, etc. Et je trouve que vraiment
c'est un bon baromètre pour ce qu'est un bon jeu ouvert
C'est clair,
avant ce Red Dead, en fait.
Bah, c'est le vrai
c'est
problème,
un peu le
de
problème
jeu, en fait.
Du jeu. Il y a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête où tout le monde attend énormément de Red Dead. On ne sait pas à quel point on va être enthousiasmé ou peut-être déçu. Mais voilà, c'est un état du jeu en mode ouvert.
Imagine, il serait sorti après. Il vaut mieux qu'il sorte maintenant.
Cette fin d'année, c'est pour ça. Mais en tout cas, lui, il a son univers à lui. Il a vraiment son contexte très particulier. Et je pense qu'il continuera à vivre après Red Dead, enfin en parallèle.
Il est énorme, il est monstrueux. Enfin, je pense qu'il y en a pour une centaine d'heures.
C'est clair, juste 10 heures, j'ai l'impression de rien
avoir
fait.
C'est vraiment très, très
dense. C'est une proposition un peu. Oui, c'est en dehors de toute proportion. Enfin, c'est. Au niveau des choses à faire, au niveau de l'ampleur de ce machin, c'est
encore une fois, c'est pas l'ampleur, c'est important évidemment, mais c'est pas ça qui compte. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment la liberté qu'on te laisse de l'appréhender à ta façon sur un monde ouvert. Et je trouve que vraiment il y a des vraies avancées. Et encore une fois, on le vit cette aventure à son rythme. Et ça, c'est moi j'ai passé pas mal de temps aussi à explorer, à prendre des photos, à regarder partout tellement. Enfin, il y a vraiment des fulgurances visuelles vraiment impressionnantes. Encore une fois, je trouve qu'on a des très beaux jeux actuellement. On parlait du Tomb Raider, on parle de ce jeu. Je pense que Red Dead, c'est très bon. On a vraiment une belle fin d'année. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais c'est vrai. Je trouve qu'on a vraiment des très 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 beaux jeux en ce moment.
Et alors, bizarrement, sur la remarque que tu faisais tout à l'heure sur ces choses qui s'ajoutent à un système de jeu original dont j'ai dit le plus grand mal sur un Shadow of the Tomb Raider, je trouve que bizarrement là, ça permet. Enfin, après, c'est peut-être le fait que ça se revendique, parce que j'ai l'impression que c'est Assassin's Creed Odyssey, c'est le premier qui se revendique en tant que RPG. Il l'assume. On est sur un RPG.
Et tu peux pas faire ça. Tu pourras pas.
C'est le
barycentre quand même dans la progression de ton personnage, de l'optimiser pour survivre.
Oui, mais c'est le barycentre du jeu qui se déplace vers le RPG. Depuis l'open world d'action aventure que c'était à l'origine, on se déplace plus en plus vers le RPG, The Witcher et tout ça. Et donc du coup, en fait, tous ces éléments de loot,
c'est plaisant. Mais après, il y a pas des enjeux non plus complètement dingues. Tu peux resetter à tout moment les aptitudes que t'as choisies. Et globalement, je pense qu'on va tous tomber sur un peu les mêmes équilibres. Après, tu peux faire de l'arc à plein pour le défi, mais ça ne doit pas changer énormément de choses. Et tout ce qui est la composante staff, matos et compagnie, c'est pareil. Tu gagnes un niveau toutes les trois missions et tu vas récupérer des armes toutes les trois missions.
Ou tu fais progresser tes armes légendaires niveau.
C'est des skins plutôt sympathiques.
Assassin's Creed Odyssey, donc sur toutes les plateformes sauf la Switch. Il y a un truc de cloud au Japon sur la Switch, mais bon, on va pas en parler évidemment. Donc voilà, très très grosse, très très grosse proposition d'Ubisoft.
Studio de Québec, qui a travaillé.
Studio de Québec. Et tu disais, c'est marrant, dernier point, mais sur les univers. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'étais juste fanat de deux choses. C'était la mythologie égyptienne et la mythologie de la Grèce antique. C'est vraiment, mais moi, il y a un côté hyper Madeleine dans ces deux propositions avec une année d'intervalle sur Origins et Odyssey. Moi, ça parle à mon moi de 12 ans.
La plus grande force d'Assassin's Creed, quoi. C'est le pouvoir d'évocation de ces univers.
Beaucoup plus que tous les autres.
Question,
pour moi, c'est
le prochain dans 2 ans, ça sera quoi?
Non, mais ça, on va pas.
Après des sujets pareils, à quoi tu t'attaques?
Le Japon féodal.
Oui, on parle beaucoup du Japon.
La Première Guerre mondiale.
Les trois royaumes.
Berlin.
Mais on va voir. Il y a de quoi. Ils ont de quoi. Ils ont de quoi.
Oui, puis là, il y a pas mal d'extensions qui vont arriver. Enfin, déjà, il faut finir le jeu. Et comme tu dis. Je pense qu'il y en a pour 50 heures au bas mot.
Plus
50 heures, peut-être pour la quête principale, mais quand tu veux
vraiment le fouiller. Non, c'est colossal. C'est vrai que c'est vraiment colossal.
Allez, parlons rapidement de cette petite production venue du nord de l'Europe, de Malmö, dans la Suède du Sud, d'un studio qui s'appelle Plausible Concept, et le jeu s'appelle Bad North. On est sur de la stratégie, on est sur la stratégie temps réel, mais on est sur du rogue aussi, hein, voilà. Allez, si on mettait tous les mots-clés d'un coup, comme ça, mais on
Dark
est sur
Souls
de...
like.
Da, non, non même bon. Pas, non, là, pour le coup, non, on échappe au Dark Souls-like.
T'as oublié le mot-clé minimaliste aussi.
Minimaliste et oh, joli
pixel
mignon.
Pixel art.
Ah, non, pas. Ah, pas du tout.
C'est en low-poly, là, j'ai vu un petit peu, non.
Ouais, c'est un peu low-poly, un peu... c'était quoi ce jeu, là, sur Monument Vallée, là, tu sais, ce genre de choses. On est sur de la stratégie temps réel, mais de la stratégie temps réel simplifiée. Pour autant, est-ce qu'elle est vraiment simple? Je ne sais pas, Marius.
Non, c'est plutôt assez cruel. Au début, ouais, on y va, c'est tout mignon, on a 4 unités. Même, je crois qu'au début, on en a 2. Ouais. Et on se dit que finalement, ça ne va pas être bien difficile. On a en gros 2 unités qu'on déploie en début de mission. Une île, genre 3-4 maisons à protéger d'invasion de vikings qui débarquent par la mer et à travers un brouillard de guerre qui est toujours un petit peu angoissant.
Oui, oui.
Et en fait, c'est juste du placement et du timing. Mm. C'est très simple au début. Et je sais pas, il y a un moment où on se prend le mur et on se fait massacrer, quoi.
C'est un rogue, c'est-à-dire qu'en fait, il faut débloquer chaque île les unes après les autres. Et non, mais c'est... Alors...
Non, je rigole parce qu'il se massacrait point et fin de la preview.
J'en peux
bon,
plus.
Bah, ça,
j'en
fait, peux plus. Ça fait envie.
Alors, c'est un aspect rogue. Et donc, il faut bien comprendre que le rogue, c'est exactement ça. C'est quoi le principe du rogue? C'est mourir à son niveau de compétence. C'est-à-dire que dans un roguelike, en tant que joueur, c'est tes compétences en tant que joueur qui comptent. C'est-à-dire que, si, c'est la base du roguelike, c'est ça. C'est ce qui va te faire dépasser, ce qui va te faire aller plus loin que ta partie précédente, c'est que ta maîtrise augmente. C'est la base du système.
En réalité, prenons, je ne sais pas, un Binding of Isaac, ça dépend énormément de ce que tu vas ramasser dans une partie. Pareil, dans Spelunky, ça dépend énormément de ce que le marchand va te proposer. Disons que la part de chance, ça aussi.
Oui,
une
mais
grosse
sur la moyenne, sur la moyenne de tes parties, c'est une amélioration de ta qualité de joueur. C'est la force du roguelike. Hein. C'est que la partie s'arrête, il y a très peu. Alors évidemment, certains roguelikes vont te donner quelques bonus à la partie suivante, mais généralement, c'est minime. Et c'est ta qualité, c'est ton apprentissage qui va te permettre d'aller plus loin. Et là, c'est vrai qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire que...
Là, t'as pas de hasard du tout. C'est vraiment du placement et de l'anticipation. Et quand tu crèves, c'est vraiment de ta faute.
C'est-à-dire qu'au début, les bateaux, ils arrivent par un. Donc, c'est bien. Tu vois le bateau arriver.
Pas trop dur.
En plus, au moment où tu te mets en mode sélection d'unité, le temps se ralentit. Donc, notamment, le bateau, il est assez loin. Et en plus, le temps se ralentit. Et avec pas de limite de ralentissement du temps. Tu peux laisser le temps ralenti tant que tu es en mode sélection d'unité. Et donc, tu vas dire à tes unités, allez ci, allez là. Et là, le bateau, il arrive. Et les gens se font démonter la gueule par tes unités qui sont hyper fortes. Enfin, qui sont toutes faibles, mais supérieures en nombre, en tout cas. Et après, tu vas améliorer tes unités, hein, évidemment. De partie en partie jusqu'à un niveau 3 maximum, niveau 3 ou niveau 4, 1, 2, 3, oui, enfin bref, jusqu'à un niveau maximum. Et tu vas leur donner des petits bonus avec un objet que tu vas pouvoir attribuer à chaque unité. C'est là où arrive le random, hein, parce que les objets sont différents à chaque partie. Il vaut mieux avoir l'anneau qui te permet de passer de 12 à 16, puis 20 unités par 20 armées par unité, plutôt que d'autres qui servent moins. Mais bref, tout ça. Et arrive effectivement le moment, hein, ce moment un peu gênant, où sur une île un peu plus grande que les autres, eh bien, il y a une vague qui va arriver par le nord, l'ouest, le sud et l'est de l'île. Et là,
tout en même temps.
Tout en même temps.
Et ce petit jeu qui semblait assez gérable, facile, dans l'équilibre entre les unités d'archers, les piquiers et l'infanterie, d'un coup, en général, quand ça va mal, tout va mal d'un coup. Et c'est très, très douloureux, quoi, de monter ses unités, de penser être bon, d'avoir trouvé l'équilibre et de perdre le contrôle d'un coup. C'est extrêmement marrant.
Donc, les unités se spécialisent, hein, se spécialisent entre piquiers qui tiennent des positions, mais qui sont nuls dès qu'ils doivent se déplacer. Ils ont la possibilité de charger en ligne droite, mais en dehors de la ligne droite, tu les oublies.
Ça sert pour les goulots d'étranglement, ça protéger
voilà,
des zones.
C'est pour servir. Voilà, il faut pas qu'ils bougent. C'est tout. Il y a les archers et l'infanterie, donc ces deux unités qu'on ne présente plus. Et il va falloir gérer ce petit monde avec ces unités, sachant qu'on a 4 unités maximum par île. Donc, quand il y a quatre arrivées sur les quatre points cardinaux en même temps, c'est là où ça devient très très problématique, sachant que les ennemis aussi, ils ont une légère tendance à contourner tes unités. Hein. Ils vont pas forcément au combat, eux ils veulent détruire des maisons, c'est tout. Hein. Donc c'est là où va en fait, c'est à un moment le jeu passe de la du jeu de placement, hein, où on place ses unités en attendant les bassins adverses, à la micro, enfin à la tactique et la micro gestion. Et là ça devient hyper coton. En fait.
Il y a un truc de rythme aussi à trouver, ouais, avec les unités. On peut les soigner, les envoyer se reposer quelques minutes, mais du coup c'est un pari assez risqué
sur l'avenir.
Et c'est super plaisant dans le timing, ouais, quand tu réussis à sauver une unité où il restait plus qu'un petit bonhomme et à le faire revenir pile au bon moment. C'est assez jouissif. Et en revanche, par contre, quand on voit la maison cramée avec les unités à l'intérieur, c'est un tout petit peu plus douloureux.
C'est moche.
C'est un jeu qui est, on l'a déjà dit, qui est super beau. Moi, j'ai trouvé super beau.
Ouais,
dans le minimalisme,
élégant.
C'est très élégant. C'est une quinzaine d'euros, hein, sur, dispo sur Switch, PS4, Xbox One, bientôt sur PC. Hein. C'est un jeu indé pour
étonnant.
Le coup. Qui va sortir en fin d'année sur PC, et qui est déjà sorti sur les consoles. Qui se joue très très bien au pad. Voilà, oui. c'est la stratégie temps réel qui se joue très bien au pad. C'est à noter, c'est quand même. Et qui est, moi j'aime beaucoup cet aspect roguelike parce que en fait les premières phases de jeu sont hyper agréables aussi. C'est hyper agréable de revenir à ce petit placement.
Ça se passe tout seul.
Allez, on se repose. On est en mode repos. On va monter nos unités tranquillou. Et à la fin, voilà, à la fin il y a cette tension un peu perpétuelle de. Ça m'a fait penser à ce jeu sur les et avec des îles aussi qu'on débloque ce jeu de tactique là de 8 par 8 récemment
oui bien sûr Into the Breach
merci alors c'est pas du tout le même parce qu'on n'est pas du tout sur du tour par tour, on n'est pas du tout sur la réflexion à ce niveau là mais il y avait ce côté roguelike qui était un peu le un
qui
peu
est récemment
même.
Sorti sur Switch d'ailleurs, il me fait un peu envie j'avoue.
Voilà, ça s'appelle Bad North, une quinzaine d'euros sur toutes les plateformes. Et bien le programme jeux vidéo est fini pour cette semaine, dites-moi. Eh bien, vous n'avez... Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Pas grand-chose. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur Assassin cette semaine et puis sur d'autres choses. Allez, je vais vous parler d'un de mes plaisirs coupables, ce que je fais depuis quelques semaines maintenant.
Depuis 12 ans.
J'assume complètement. Non, moi, je suis un fan de la série Vendredi 13, la fameuse série de slasher des années 80. Alors, moi, évidemment, parce que j'ai découvert ça gamin, c'était le truc un peu qu'on se passait sous le manteau, des films d'horreur de l'époque qui ont vraiment marqué le genre du slasher. Alors, moi, étonnamment, alors, j'aime bien les épisodes classiques avec le mais j'aime bien aussi Bizarrerie oblige, moi j'aime bien les épisodes un peu différents. Moi j'aime bien le Jason Takes Manhattan ou Jason part Manhattan. Alors, c'est complètement c'est complètement indécent. Pour moi le summum du kitsch dans la série, c'est Jason X, où Jason se retrouve dans le futur dans l'espace, qui sont à la fois dans la série et ils sont complètement décalés. Donc pour moi ce sont des petites perles.
Tu m'as un peu vendu Jason X, j'avoue.
Ouais, il est bien. Non mais vraiment plaisir coupable à fond, quoi, mais plaisir quand même. Donc, on le regarde. Voilà.
Corentin.
Alors moi, j'écoute un podcast qui s'appelle Mensetsu. C'est je suis un groupement de podcasts qui s'appelle Podcast et qui c'est grosso modo des podcasts en français mais fait au Japon par une bande de d'amis. Voilà, là-bas, ils font notamment aussi le KYCast où ils parlent de jeux vidéo notamment. Donc je leur fais un petit coucou. Et Mensetsu, c'est quoi ? Ça veut dire entretien et c'est ça. Ce sont des entretiens avec des Français au Japon dans différentes situations. Donc ça peut être des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui viennent d'arriver, des gens qui sont sur le point de partir aussi. Et donc c'est tenu par Mathieu Cambellas qui est une connaissance du Japon, qui est un ami même, et il fait ça tous les mois et c'est vraiment passionnant.
C'est la tranche de vie, du coup ?
Il raconte alors comment t'es arrivé, pourquoi t'as décidé de venir. C'est vraiment sur la notion de pourquoi tu es arrivé au Japon, pourquoi tu comptes.
Qu'est-ce
que tu y fous ? Si tu veux en partir, pourquoi tu veux en repartir ? Qu'est-ce que tu aimes au Japon ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Japon ? Ça parle pas mal du monde du travail qui est... Enfin, vous verrez, c'est un thème récurrent dans le podcast, mais c'est vraiment la façon de travailler des Japonais qui est vraiment particulière et énervante, notamment quand on n'est pas japonais. Moi, je trouve ça assez passionnant parce que ça nous parle vraiment du ressenti de l'étranger qui arrive dans une culture qui lui ressemble pas du tout, où il faut s'adapter à des codes. Donc, il y a certains points sur lesquels on va s'adapter, il y a d'autres points où on va pas s'adapter. C'est plutôt nous qui allons influer les gens qui sont sur place. Il y a aussi des gens qui se marient avec des Japonais, ça explique comment ça se passe.
J'ai pas fait. Oui. Il travaille dans quel domaine, lui, du coup, sur place?
Alors, lui.
Je sais pas si tu l'as dit. Ou...
Alors, le dernier épisode, il se trouve que c'est lui-même, c'est pour l'anniversaire, c'est ouais. Le 13e épisode. Donc, il parle, c'est lui-même qui est interviewé. Et donc, je l'ai appris exactement de quoi il bosse. Il est à mi-chemin entre la stratégie financière et la gestion de. Contrôleur de gestion. Voilà, c'est à mi-chemin. Okay. Alors, c'est un peu flou pour moi, mais j'imagine que c'est très clair dans sa boîte, j'espère. Mais voilà, il explique ce qu'il fait dans le dernier podcast. D'accord. Du coup, je ne conseillerais pas nécessairement le tout dernier où il parle de lui, donc c'est un peu particulier. Plutôt celui d'avant où justement c'est une jeune femme qui est mariée à un Japonais et qui a beaucoup bourlingué avant, qui est allée en Russie, qui est allée en Ouzbékistan et qui du coup a dû convaincre son ami japonais que, eh oui, c'est possible, on peut se marier avec quelqu'un d'une autre culture, c'est possible, cher Japonais. Et la façon dont elle l'a fait est assez intéressante. C'est passé par le cinéma finalement.
Tu peux redire le nom du podcast ?
Mensetsu. Je te refilerai si tu veux les références. Voilà, et ça dure 1h30. Enfin, ça peut durer longtemps, mais souvent ça dure entre 1h et 1h30. Et c'est tous les mois. Voilà.
Marius.
Eh ben, c'est pas pour empiéter sur le territoire de Patrick, mais je me suis fait une petite semaine années 90.
Attention.
Aïe, aïe, aïe.
En revoyant Predator 2.
Bien.
Qui est Predator 2, un petit peu naze, mais quand même charmant.
Plaisir coupable, hein, voilà. On revient là-dessus. Mais c'était un choc, hein, le 2 à l'époque. Moi, je me rappelle,
c'était surtout l'éveil.
Malsain.
Enfin, c'est là que j'ai découvert que des fois, il fallait pas de suite. Que c'était pas forcément souhaitable.
Moi, je pense qu'il faut.
C'était cool, hein, c'était violent, c'était vulgaire, mais. On était loin du premier, quoi.
On était loin, mais c'était pas un copier-coller.
Ouais,
et ça c'était intéressant d'avoir une autre vision du Predator dans un tout autre contexte.
Et finalement, ça, c'était destiné. Quoi.
Bah ouais, complètement différent.
Voilà.
Et puis bon, les narcos et tout ça, c'était vraiment il est gore le deuxième.
Ah oui, ça part dans le narcotrafiquant.
C'est
les guerres de gang à Los Angeles.
Ouais. Ok.
Et tout ça, c'était destiné à préparer la vision de The Predator qui sort mercredi. Pour lequel j'attendais pas grand chose, mais on était quand même tenté par le fait que ce soit Shane Black, donc qui était le scénariste du premier, passait à la réal. C'est pas n'importe qui, Shane Black, il a fait quelques petits films sympas, il a quand même un sens du punch et du swing qui est marrant. Et ce Predator qui a plein de défauts, hein, faut pas se leurrer non plus, est quand même super sympa. C'est un vrai film de commando avec des vrais dialogues, c'est fun.
On retrouve ambiance jungle et compagnie originale.
Alors un tout petit peu, il y a des clins d'œil au début, ça revient dans la forêt à la fin, mais ça propose vraiment quelque chose d'autre. Et c'est super marrant. C'est très con, il y a des blagues qui sont drôles, et c'est rare au cinéma de voir les trucs marrants dans le film d'action. Il y a aussi
le premier Predator était bien pour ça, il y avait des punchlines de fou dans
Là vraiment tu ressens l'écriture de Shane Black, quoi. Il y a des trucs où tu putain, après l'écriture Marvel, ça change quoi. Alors la question, c'est à qui ça se destine en fait. Quand on voit que les films Marvel cartonnent, que Venom a l'air de très bien marcher, que celui-là a quand même moins bien accroché aux États-Unis, peut-être que c'est une écriture trop années 90, que c'est destiné à nous, qui sommes un peu vieux et pas forcément représentatifs de grand-chose. Mais c'est chouette. Non, c'est ne vous laissez pas abattre par les Alien versus Predator et autres horreurs comme ça. Il vaut vraiment le détour. Même si, encore une fois, les chiens Predator, c'était peut-être pas nécessaire.
parce que le premier Predator, il y avait un monstre vraiment mythique qui naissait au cinéma avec ce personnage dans le premier.
Et là, ironiquement, c'est presque les scènes où il y a le monstre qui sont le plus décevantes. C'est que Shane Black arrive à écrire des vrais personnages,
c'est rare.
Un groupe de 10 personnes avec chacun son identité, son humour, son machin, et ça fait plaisir.
Vraiment, qu'il fasse un Predator intimiste où à la fin la punchline serait finalement le Predator est au fond de nous-mêmes.
Eh ben, va le voir.
Okay. Allez, on va. J'ai encore faire un peu de corpo, souvent. Mais parce que c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de transports en commun. Hein, on est beaucoup à l'avoir et j'écoute beaucoup de podcasts. Et là, j'ai découvert. Assez récemment, enfin j'en avais entendu quelques-uns avant, mais le à dérouler de Binge Audio. C'est très rigolo à dérouler parce que c'est un podcast proposé par Juliette Livartowski, hein, qui travaille à Binge Audio. Et en fait l'idée c'est de prendre un thread Twitter que vous connaissez. Alors les threads Twitter, ça raconte quoi? Ça raconte tout. Il y a des histoires, les gens ils racontent ce qui leur est arrivé. Il y a des gens qui racontent des détails sur un fait scientifique, sur un truc truc complètement insolite qui leur est arrivé. Alors c'est des threads, ça prend 10-20 et tout ça.
Comment ils ont oublié de biper les couvercles de leur Tupperware Ikea aussi.
Le thread du moment hein, à lire si vous voulez. Je ne sais pas si ça se retrouvera dans la déroulée, mais en fait, il y a des threads, il y en a tous les jours, plein. Et évidemment, il y en a qu'on rate, même si on est sur Twitter une bonne partie de la journée. Il y a des grands threads comme ça, on les voit pas. Et pour le coup, bah voilà, là, on en est au numéro 140 de la déroulée quand même. Et c'est à chaque fois des threads qui sont racontés.
C'est vraiment un objet à part. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Il y a cette voix qui narre le truc. Et à chaque fois, t'as l'impression de rentrer dans une histoire hyper personnelle.
C'est ça.
Ou dans un truc qui va t'appeler. Enfin, c'est vraiment un bel objet.
Donc, à dérouler donc, sur la chaîne, enfin, sur les différentes plateformes de podcast, sur la chaîne Binge Audio. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Ce numéro était encore une fois réalisé avec brio par Jules Gelaoui. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.